DW. Économie et développement.
Comment transformer les ressources minières africaines en véritable levier de développement? Avec un sous-sol immensément riche, l'Afrique est considérée comme un véritable trésor naturel. Pourtant, cette richesse ne se traduit pas toujours par un développement économique et social durable. Comment inverser cette tendance et faire des ressources minières un levier de prospérité pour les pays? Ce numéro de votre magazine se penche sur la question. Illustration en République démocratique du Congo, l'enjeu pour ce vaste pays est de transformer le boom de l'électromobilité qui s'observe aujourd'hui en Europe en un moteur de développement inclusif. Économie et développement, c'est Rodrigue Guezodiao au micro. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.
DW.
Elle est une véritable mine d'or, regorgeant de ressources minérales précieuses. Abritant jusqu'à un tiers des réserves minérales mondiales, l'Afrique produit actuellement plus de la moitié des métaux tels que la platine, le manganèse, le cobalt et autres. Avec une demande mondiale en énergie éolienne, en véhicules électriques et autres produits capables de procurer de l'électricité et de transporter des personnes et des marchandises sans émettre de CO2, l'Agence internationale de l'énergie prévoit une augmentation considérable de la demande de ces matières premières. D'ici 2050, la demande de nickel va doubler. Celle de cobalt va tripler et celle de lithium se verra multipliée par 10 selon les estimations. Cependant, ces richesses naturelles, qui pourraient être un puissant levier de développement économique, ne profitent pas suffisamment aux populations locales. Alphonse Ndongo est analyste économique. Pour lui, la mauvaise gestion, les contrats désavantageux et la faiblesse des infrastructures constituent autant de freins à une réelle valorisation de ces ressources.
On sait que les fonds générés par des ressources naturelles ne sont pas réinvestis dans le développement du pays, mais plutôt sont détournés par des individus ou alors des groupes de gens qui sont au pouvoir. Et puis, il y a l'autre aspect qui tient aux infrastructures. Nos pays n'investissent pas assez dans les infrastructures, notamment de transport. Et donc, cela renchérit le coût et ceux qui sont à la manœuvre, qui ont plus de moyens, certainement, ils imposent leur façon de faire, leur attitude, ils profitent de l'ignorance, mais aussi du sous-développement.
La République démocratique du Congo, à elle seule, génère environ 70% de la production mondiale de cobalt et possède la moitié des réserves prouvées. L'Afrique du Sud, le Gabon et le Ghana génèrent collectivement plus de 60% de la production mondiale de manganèse. Le Zimbabwe, ainsi que le Mali et la RDC, possèdent des gisements de lithium dont on sait qu'ils sont substantiels, même s'ils sont encore inexploités. D'autres pays possèdent des réserves de minerais essentiels considérables, notamment l'Afrique du Sud, la Guinée, le Mozambique et la Zambie. Malheureusement, ces ressources quittent souvent le continent à l'état brut, privant les nations de la valeur ajoutée générée par la transformation locale. C'est ce qui amène Alphonse Ndongo à évoquer aussi la pression internationale qui conduit, selon lui, à des pratiques d'exploitation peu transparentes et irresponsables.
C'est-à-dire que vous avez des entreprises multinationales qui ne veulent pas respecter les normes environnementales et sociales, ce qui aggrave le problème. On l'a vu souvent dans le cas de la RDC avec des entreprises asiatiques. Hein. Et enfin, last but not least, il y a le manque de réglementation claire. Vous avez une réglementation, soit elle existe, elle n'est pas du tout respectée, ou alors il y a une faiblesse dans cette réglementation. Et ceux qui sont des investisseurs, ils sont souvent entourés des sachants, des grands cabinets conseils, et ils trouvent qu'il y a donc des failles dans ces contrats, dans cette réglementation. Ils en profitent pour davantage piller les richesses du pays concerné.
Mais plusieurs solutions s'offrent au pays pour une meilleure gestion et valorisation des ressources minières. Pour relever ces défis, Doro Niang, géotechnicien, suggère quelques approches.
Il faut réorienter les revenus miniers vers les investissements de base. Et aussi, il faut que l'État ne soit plus consigné à ce rôle de collecteur de taxes et d'impôts. Il faut que l'État soit un opérateur économique. à travers les partenariats publics-privés nationaux. Je vous rappelle que 80% des opérations minières sont détenues par les services, à travers les analyses de laboratoire, à travers les forages miniers, à travers l'approvisionnement en carburant, en denrées, etc. Donc, c'est tout un tas de services qui sont là et qui pourraient beaucoup profiter au secteur privé national. Ensuite, investir au moins 50% de ces activités au niveau de ces services-là, ce qui permet à l'État de bénéficier encore plus de revenus. Sur la question de l'aluminium, par exemple, si l'État guinéen avait travaillé dans le cadre d'une mutualisation, parce que l'État guinéen seul peut-être n'a pas les moyens d'exploiter, mais en allant vers le cadre sous-régional avec la CEDEAO, les États de la CEDEAO, que chaque État apporte une contribution significative avec une part qui lui revient d'office, ça permet à l'État guinéen d'investir et ce sera un investissement africain pour les Africains. Et je pense qu'il faut s'orienter vers cela. L'autre aspect aussi qu'il faut prendre en compte, le secteur minier, c'est un secteur qui draine des fonds, mais qui produit peu d'emplois directs.
DW. Le développement fulgurant de l'électromobilité en Europe bouleverse les dynamiques économiques et stratégies mondiales. Alors que l'Union européenne s'efforce de garantir des approvisionnements sûrs en matières premières essentielles comme le cobalt et le lithium, la République démocratique du Congo se retrouve au centre des discussions et bénéficie d'un levier considérable dans les négociations internationales. Ce rôle renforcé offre à Kinshasa une occasion unique d'améliorer ses termes d'échange et de maximiser les bénéfices pour son économie. Cependant, cette opportunité s'accompagne de défis majeurs. Le reportage de Philippe Sandner et Anne Letouzé.
Bruxelles, été 2024. Dans un bureau du Parlement européen, la députée française Marie-Pierre Vedren, du groupe parlementaire libéral Renew Europe, expose sa position sur la politique européenne des matières premières.
La France, l'Allemagne, l'ensemble des États de l'Union européenne doivent agir ensemble dans une logique de créer des approvisionnements qui soient sûrs pour l'Union européenne et qui soient durables, avec des méthodes d'extraction qui répondent aussi, nous, à nos ambitions, c'est-à-dire à ne pas piller les ressources ou à ne pas faire en sorte que des enfants travaillent dans des conditions absolument abominables.
7000 km plus au sud, près de la ville minière de Kolwezi, dans le sud de la République démocratique du Congo, Paul Zagabe Banze travaille dans une mine de cuivre et de cobalt. Casquette de baseball vissée sur la tête pour se protéger du soleil brûlant, il tient deux morceaux de minerai dans la main. Ici, le travail se fait à la main et les sacs de 50 kg se portent sur le dos. L'équipe de la DW ne voit aucun enfant sur le site.
Les travaux de ces cuivres, nous, les trésors, on ne sait pas. Parce que c'est les blancs qui vendent, qui achètent ça. Nous, on les vend. Mais on ne sait pas le travail qu'il fait avec ça.
Tout un monde sépare les reliefs couverts de poussière rouge des sites miniers congolais et les couloirs climatisés du cœur politique de l'Europe. Le pont qui les relie, ce sont les matières premières. Le cobalt, qui est un composant des batteries électriques, est un matériau essentiel pour la transition énergétique dont l'Europe a fait son cheval de bataille avec la promesse d'atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050. La RDC produit 2/3 de ce minerai. Le niveau de la production mondiale dépend donc en large partie de ce pays. Après un creux de 800 tonnes en 1994, le volume l'a plus que centuplé pour atteindre 98 000 tonnes en 2020, tandis que le rendement dans le reste du monde a seulement doublé. L'Europe demande, le Congo offre, une équation qui paraît simple à première vue. Sauf que ce n'est pas le cas. Cécilia Tracy, analyste des questions d'énergie et de climat au sein du think tank européen Bruegel, explique. La majorité du cobalt mondial se trouve au Congo, mais les trois quarts sont traités en Chine, ce qui signifie que pour utiliser le cobalt, il faut aller en Chine, ce qui, dans l'état actuel des choses, peut poser problème. L'eurodéputée Marie-Pierre Vedren est consciente du problème et plaide une fois encore pour une action commune des Européens.
On a un intérêt européen à agir ensemble, parce que ceux qui maîtrisent l'entièreté de la chaîne de valeur des matières premières, c'est-à-dire l'extraction, la transformation, l'industrialisation, le recyclage, oui, jusqu'à présent, c'est la Chine, avec des méthodes souvent de prédation, notamment en République démocratique du Congo ou dans d'autres États, avec la volonté de ne pas faire transformer la valeur et créer de la valeur sur place, en Afrique, alors que ça doit être un enjeu on doit partager avec les Africains.
Ainsi, les acteurs européens apparaissent à peine dans la ceinture de cuivre du Congo. Au lieu de cela, le cobalt arrive en Europe par le marché mondial, après avoir été raffiné en Chine et 5 ou 6 étapes intermédiaires, selon les estimations de Cécilia Tracy. Pour Simon Toumawaku, il est tout à fait logique que les pays européens ne soient pas les partenaires de choix de la RDC. L'ancien ministre des Mines, qui a mis en place en 2002 le premier code minier du pays après des années de guerre, compare la relation entre les pays africains et les anciennes puissances coloniales avec de jeunes adultes qui veulent s'émanciper de leurs parents.
C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tous les pays africains disent « oui, nous avons été colonisés ». Maintenant, vous devez prendre en compte nos sentiments, nos désirs, apporter de l'argent ou autre chose, mais ne nous imposez pas ce que vous pensez être bon pour nous. Demandez-nous « que voulez-vous faire ?» et nous vous dirons quoi faire avec l'argent.
L'attention portée aux matières premières du Congo ne date pas d'hier. Il y a plus de 100 ans, des esclaves exploitaient du caoutchouc pour les besoins européens dans la colonie privée de Léopold, roi des Belges, dans des conditions inhumaines. Après l'indépendance, le dictateur Mobutu Sese Seko a instauré un système dans lequel la nationalisation, le manque d'investissement et le népotisme galopant ont laissé peu de place aux bénéfices. La production a chuté. C'est seulement sous Joseph Kabila, prédécesseur de l'actuel président Félix Tshisekedi, que des efforts ont été entrepris pour réguler le secteur, attirer des entreprises importantes et même coopérer avec la Zambie, avec l'objectif de se lancer à son tour dans la production de batteries. Malgré tous ces efforts, l'UE ne peut pas devenir le partenaire numéro un de la République démocratique du Congo. La Chine se taille la part du lion, d'autres pays se positionnent et les puissants des provinces et des grandes entreprises sont loin de jouer selon les règles des anciennes puissances coloniales. Les progrès du nouveau code minier sont pour l'instant seulement sur le papier. Selon des ONG locales, le gouvernement ne semble pas pressé d'appliquer sa propre loi. Dans la mine de Kolwezi, Paul Zagabe Banze se dit satisfait. Il vit bien avec sa femme et ses 4 enfants. Le compte est bon, avec la force que Dieu lui accorde.
Merci à Philippe Sandner et Anne Letouzé pour ce reportage qui vient d'ailleurs mettre un terme à ce numéro d'économie et développement. Merci à vous également de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.